1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air? Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Ich will keine Schokolade. Ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann.
SLP, salut les PD, salut!
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 Ça va mieux, Ariane?
Attends, je me prépare à mon morceau de bravoure, je suis très concentrée.
Le morceau de bravoure du mois d'Ariane, dans quelques secondes, amis auditeurs. On fait notre troisième émission du mois de décembre.
Ça, c'est
de l'annonce,
ça, t'as vu ça un peu. Ouais.
Donc, troisième émission du mois, pardon, sur les icônes. Cette semaine, les icônes qui pensent. Oui.
C'est sympa pour tous ceux qu'on a vus les semaines précédentes.
Non, mais dont l'activité principale est de penser. Alors, on va en évoquer...
Avec un A, c'est des infirmiers.
Non, pas avec un A, t'es bien placé pour savoir, avec un E.
C'est pas une émission pour moi. Moi j'ai...
Bon, on se ressaisit.
Non, moi j'ai avec un A.
On a une demi-heure à tenir.
Avec plusieurs A.
D'accord, avec un A.
Oui, pour Angela.
Ah, Angela. On va commencer par Angela. Angela Davis.
La sœur de coupe.
La sœur de coupe.
Bah, coupe Davis.
D'accord.
Oh là 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 là.
Je vous ai dit que c'était pas une émission pour moi.
Donc, on va la faire ensemble, Ariane, si tu veux bien.
Je suis toute déconcentrée là, c'est
Gisela,
bon.
Tu interviens quand tu veux quand même. Hein.
Alors, avec, pas pendant Anna le discours, propos pareil. S'il te plaît.
Mais c'est qui déjà
Bah, Angela Davis, alors.
Bah, Angela Davis, c'est une icône. Là, c'est une icône, elle a son portrait. Bah, il y a un de ses portraits qui est super connu, qui est en noir et blanc, façon pochoir, avec la grosse afro. Tu vois, tu la vois en train de déclamer. Tu vois pas cette image? Elle est quand même extrêmement fameuse. Il y a une maternelle qui s'appelle Angela Davis dans la ville de mon enfance quand même.
Mais pourquoi c'est une icône? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est un écrivain?
C'est un auteur important. Elle enseigne à l'université aux États-Unis.
C'est une militante
en Californie,
aussi.
Voilà, très fort. Mais c'est vraiment une des icônes du black féminisme que je ne vais pas traduire puisque ça n'a pas vraiment. Enfin voilà.
Et Angela est lesbienne aussi. C'est
entre
ça
autres.
Entre autres. Absolument. Mmh. Et donc, on a choisi de parler d'Angela. Enfin, tu as choisi de parler d'Angela
aujourd'hui. Oui, j'ai choisi de parler d'Angela parce que j'avais envie que ce dont on traite pour cette émission soit quand même récent, vivant, que ce soit en lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Et je suis tombée sur ce discours d'Angela Davis prononcé lors de sa visite au camp d'Occupy Wall Street, puisqu'elle a fait partie de Occupy sur le campus de la ville.
Donc on est pile poil dans l'activité, dans l'actualité.
Voilà, donc là c'est ce qu'on va entendre. Donc le son est assez mauvais parce que ça a été pris en extérieur par les gens présents. Donc c'était le 30 octobre
dernier.
Voilà, et donc je vais vous faire la traduction par-dessus le son, tout de suite en live, c'est pour ça.
Non,
que
non, mais j'y crois
c'est
pas.
C'est le morceau de bravoure.
Waouh.
Et on.
Donc voilà. J'explique aussi par rapport au son, les gens répètent tout ce qu'elle dit, c'est normal. C'est la façon de faire le porte-voix matériellement avec le matériel qu'ils ont, c'est-à-dire que on répète tout ce que la personne dit quand on est au premier rang, comme ça les rangs derrière entendent aussi et répètent aussi, puis on s'imprègne aussi du discours autrement.
D'accord, donc tu traduis et nous avec Justin on répète.
Non, non, je vais plus y arriver parce que je vais essayer de vous le faire en rythme quand même comme elle le dit, mais c'est vrai qu'on entend plus les voix des gens qui répètent que sa voix à elle.
D'accord.
C'est vraiment un honneur d'être parmi vous cet après-midi.
For
car vous êtes en train de réinventer notre univers politique. Vous avez renouvelé notre passion collective. Vous nous avez rappelé qu'il est encore possible de construire des communautés de résistance. Vous continuez de nous montrer votre engagement, votre dévouement, votre travail collectif, votre refus d'approuver les hiérarchies de classe, les hiérarchies de race, les hiérarchies de genre. Vous avez compris là, c'est bon? Votre mouvement appelle la majorité à se dresser contre la minorité. Les anciennes minorités sont la nouvelle majorité. Et ainsi, nous disons non à Wall Street. Nous disons non aux grandes banques. Nous disons non aux PDG qui font $1 million à l'année. On accélère un peu parce que... Nous disons non à l'endettement des étudiants. Nous disons non à l'exclusion. Non à la violence policière. Ça va, vous l'avez ça? Non au capitalisme global? Nous disons non au complexe pénitentiaire industriel. Non au racisme. Non à l'exploitation de classe. Homophobia. Damned. Xénophobie.
Tu dois traduire.
Ah, xénophobie. Transphobie. Ah, attends. Capacitisme. Dévastation de l'environnement. Nous disons non à l'occupation militaire. Nous disons non à la guerre. Nous sommes réunis en tant que 99%. Il y a des responsabilités majeures liées à votre décision de vous rassembler ici en communauté. Alors, comment pouvons-nous être ensemble? Comment pouvons-nous être ensemble dans une unité qui ne soit pas simpliste ou oppressante? Comment pouvons-nous être ensemble dans une unité qui est complexe et émancipatoire? Alors ici, j'évoque la Black féministe Audre Lorde. Les différences ne doivent pas être simplement tolérées, mais vues comme un fond de polarité nécessaire entre lesquelles notre créativité peut germer comme une dialectique. Dans cette unité complexe, Nous disons oui à la vie, on dit pas des conneries comme ils disent derrière. Hein. Nous disons oui au bonheur. Nous disons oui à la communauté. Nous disons oui à l'éducation, à une éducation libre, à une égalité économique, à une égalité raciale, à une égalité des genres, à une égalité sexuelle. Nous disons oui à l'imagination, oui à la créativité. Nous disons oui à l'espoir et oui au futur. C'est pas chou quand même.
Bah c'est plus que chou, c'est passionnant. N'est-ce pas Ghislain ?
Oui, moi ça me fait penser à la vie de Brian.
Les gens qui répètent, ouais, c'est vrai.
Oh, tu vois, quand Jésus, ouais, il est sur le mont, là, et qu'il fait ses
speeches. Don't you call me big nose.
Ouais, voilà, exactement.
Non, en même temps, dans la forme, moi, je trouve ça passionnant et intéressant parce que plutôt que d'écouter un discours devant lequel on est totalement passif, là, cette façon de le reprendre et de le scander, c'est une façon aussi de l'assimiler, de le faire sien.
Et de se l'approprier. Mmh. Et
mais c'est vrai, sur la vidéo, on voit aussi les réactions, on voit les gens qui ont le geste pour applaudir, mais pas le son,
ouais,
pour justement ne pas interrompre. Et les réactions sont... Voilà, il y a toutes les réactions. Il y a donc deux personnes qui disent « bullshit » à un moment. Et puis, il y a les gens qui font le petit signe de la main pour dire qu'ils... Enfin, qu'ils on voit à... qui essaie ou... Ouais, ou applaudir silencieusement.
Alors, Angela Davis, moi, effectivement, je regardais l'image d'une icône des Black Panthers, mais je ne savais pas, effectivement, qu'elle était aujourd'hui encore active et une militante convaincue à ce point-là.
Bah moi, on est super loin quand même, parce que c'est quand même des gens qui enseignent et qui ont leur aura dans leur, au niveau de leur chaire universitaire. Mmh. Mais de toute façon, c'est aussi quelque chose dont on a parlé le mois dernier par rapport à la diffusion des écrits féministes américains.
Oui.
On est à la ramasse, on n'en sait rien de ce qui se passe là-bas. Mmh. Puisque y a quand même un sacré joli de personnes qui, un joli paquet de personnes qui sont sur le même campus. Donc il y a Teresa De Laurentiis, et sur le même campus qu'Angela Davis, si je me souviens bien. Donc Teresa, c'est une théoricienne qui regarde plutôt le côté représentation, qui a beaucoup travaillé sur les représentations cinématographiques. Il y a un bouquin que je t'ai passé, Philippe, oui. J'espère que tu as commencé à le lire, il est très bien.
Mais je l'ai lu en entier.
C'est vrai ?
Mais oui.
Bah alors, t'as vu dans la préface le beau monde qu'il y a dans cette fac ?
Non, j'ai pas lu la préface.
Bah dans la préface, ils te disent sur quel campus elle bosse, et c'est hallucinant les noms qui sont pour nous des noms historiques et dont on ne sait plus ce qu'ils font actuellement. Mmh. Donc c'est des gens qui enseignent, qui, j'imagine, continuent à produire des écrits, et ils passent pas la... Aujourd'hui, je vous ai fait la traduction, vous avez beaucoup de chance. Mais voilà, sinon, on n'accède pas quoi, à ce matériel de pensée.
De la même façon qu'on oublie des penseurs français qui, aujourd'hui, sont à...
Oui, c'est ahurissant, ça. Ouais, c'est assez ahurissant, ouais. Puisque là aussi, le mois dernier, on a parlé de plein de gens qui se réclament de la pensée de Foucault.
Ouais.
Foucault comme initiateur des possibles qu'ils ont commencé à penser. Pas Jean-Pierre.
Mais oui, moi j'allais dire, mais Jean-Pierre, on a des nouvelles régulièrement. Enfin, on le voit qui veut gagner des millions et tout.
Mais est-ce que Jean-Pierre est une icône qui pense ?
C'est ton dernier mot, Ghislain.
Donc Michel Foucault, évidemment. Le plus simple, c'est qu'on l'écoute aussi peut-être tout de suite.
Eh bien, écoutons-le.
Mais c'est pas lui qu'on écoute en premier, si ?
Mais si,
on n'écoute pas les gens qui travaillent à partir de... Il me semble qu'on écoute d'abord ce qu'on en fait encore aujourd'hui de la pensée
de
Foucault.
C'est possible, tu as
raison,
Ariane.
Et quand bonbon, ensuite, on aura sa voix.
Comment voulez-vous que moi, je comprenne ce que vous racontez ?
Bah écoute, et tu vas comprendre.
La pensée de Michel Foucault, qui date pourtant des années 70, la société du contrôle, la nécessité de déconstruire les certitudes, tout cela, bien sûr, nous parle toujours aujourd'hui. Elles baptisent leur troupe de théâtre collectif F71, F comme Foucault, 71 comme l'année où le philosophe, entre autres, crée le GIP, groupe d'information sur les prisons, pour dénoncer la situation désastreuse des détenus en France qui, on le sait, n'a pas beaucoup évolué depuis. La prison, elles y ont joué, ces cinq comédiennes, cela bien sûr nourrit leur travail, leur façon de mettre en scène l'univers carcéral, de l'interroger. Est-ce que vous-même, vous connaissiez bien Foucault avant de travailler sur la prison ?
Pas du tout. Pas du tout. Et c'est ce qui est curieux, c'est que j'ai écrit à mon ancien prof de philo pour lui dire que je travaillais sur Michel Foucault. Et il m'a dit que pour lui, Les mots et les choses étaient le plus grand livre du XXe siècle. de philosophie, mais il nous en avait jamais parlé en cours, quoi. Non, c'est vraiment, ça a été vraiment sur ce spectacle que j'ai découvert Foucault et sa pensée, et que je la découvre en même temps encore maintenant, parce que c'est quelque chose qui m'interroge encore, qui nous interroge fortement.
Qu'est-ce qui vous interroge, justement ?
Le fait que quelque chose qui nous est donné comme certain, en fait, ne l'est pas. C'est une certitude qui a été construite par l'histoire, par des gens qui, à un moment donné, ont pris le pouvoir et ont institutionnalisé des choses, alors que elles peuvent parfaitement être remises en question, ces choses. Elles ne sont pas gravées dans le marbre. Ces murs qu'on croyait ultra solides, en fait, non. Ils ont été construits, donc ils peuvent être déconstruits. Musique.
Pendant le spectacle, vous mettez en scène un entretien de Michel Foucault, oui, dans Radioscopie de Jacques Chancel sur France Inter. Oui. Pourquoi ?
Parce que quand on travaille sur la prison, on peut être amené à se dire « Bon, ben alors, il en faut ou il n'en faut pas de la prison ?» On voudrait une réponse. Et toute la question de ce travail sur ce sujet, la manière dont on l'aborde, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de dogmatisme. Il ne s'agit pas de dire « Non, il ne faut pas de prison. Oui, il faut une prison. » Il s'agit de réfléchir au sens de la peine dans notre société. Et cet entretien nous a plu parce qu'il nous semblait être très direct par rapport à cette question-là, à laquelle Michel Foucault ne répond pas par oui ou par non, dans laquelle il se met tout à fait dans un... Il dit voilà, il n'y a pas de bien ou de mal, tout le monde... En même temps qu'il dit il n'y a pas de bien et de mal, il dit tout le monde réfléchit, moi y compris, en termes de bien et de mal. Donc ça prouve bien la complexité de cette question, qu'on ne peut pas éluder simplement avec une réponse simple. Et là où Chancel le titille, par exemple sur la question de l'enfance, en disant voilà, et si vous aviez des enfants, évidemment c'est des questions qui sont à la fois très vulgarisantes, mais en même temps hyper importantes.
Il en donnait beaucoup en fait des entretiens.
Il en donnait pas mal, et d'ailleurs ce qui est étonnant, c'est qu'on voit par exemple des émissions de télé où Foucault intervient. Quand je vois ça, je me dis c'est marrant le crédit qu'on apportait en fait. Enfin, c'est presque un peu terrifiant de se dire qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de crédit finalement donné aux intellectuels, au monde intellectuel. Il passait au JT par exemple, Foucault passait à France 2, enfin ce qui était à l'époque Antenne 2 ou je sais pas quoi. Et c'est vrai que quand il parlait, c'était, je pense, quelqu'un, entre autres, il n'y avait pas que lui, mais dont la parole comptait, sans doute.
Michel Foucault, vous n'enlèverez pas de l'esprit des gens qu'un crime doit être sanctionné par des souffrances. Ces gens qui diraient « Comment ? On a tué, on a volé. Il faut tuer. »
Il faut tuer ?
Oui.
C'est ça le texte ?
C'est ça le texte. La, 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 la.
SLP, la émission.
Voilà, donc vous pouvez retrouver l'intégralité de ce son et plus encore sur les pages de France Inter, puisque j'ai emprunté ça au reportage final de L'Humeur est vagabonde du 28 novembre. Voilà.
Du 28 novembre
2011.
Oui, là, tout frais. Mmh.
Mais hier ou avant-hier ou il y a quelques semaines, quoi.
Genre hier.
Chut ! On est à la troisième émission. Nous avons tout enregistré le même soir, amis auditeurs. Chris.
Quand je vous dis, je suis blonde.
Non, mais c'est bien, comme ça ils comprennent pourquoi j'ai toujours le nez bouché.
Alors, Michel Foucault, faut rappeler. Alors, moi, je l'ai découvert à sa mort finalement, et parce qu'il est mort du SIDA en 84, au mois de juin 84, je crois, et aussi parce que c'était un ami d'Hervé Guibert, et il apparaît en...
Ça parle aussi d'Hervé Guibert dans cette émission.
D'accord,
vas-y,
d'accord. Donc, Michel Foucault apparaît, puisque la plupart des écrits d'Hervé Guibert sont autobiographiques. Alors on ne retrouve pas forcément exactement le nom des personnages, mais en tous les cas on devine très facilement qui est Michel Foucault sous pseudo dans les livres d'Hervé Guibert. Et c'est une autre face du philosophe qu'on ne connaît pas forcément, mais moi finalement c'est ce que j'ai découvert en premier de cet homme-là, quoi. C'est la face cachée.
Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui, de sa pensée, de qu'est-ce qu'il racontait à la télé, parce qu'apparemment on le consultait beaucoup à la télé, il était très écouté.
Ce que je connais, c'est vrai que j'ai pas fini de me pencher là-dessus, mais c'est vrai que je retiens pas mal de choses, c'est clair. Mais Surveiller et punir, ça m'a vachement, enfin c'est très marquant quand même, puisque donc c'est un peu c'est complètement la démarche qui est reprise au niveau de la forme théâtrale qui est évoquée dans le sujet. C'est-à-dire que ça repose la question à la base et ça repose la question du sens. Mais pourquoi on fait ça, quoi ? Et quelle nécessité de punir ? Il faut tuer ? Tu vois la réponse ? Ah bon, c'est ça dans le texte ? Et oui, c'est Jacques Sancel qui, en porte-parole du Quidam, pose cette question-là à Michel Foucault. Ça c'est tiré d'un entretien. Mmh. Et ouais, dans Surveiller et punir, il y avait une lecture de la société. Par exemple, il a prévu la prolifération des caméras de surveillance. Donc c'est surveiller. Et si tu veux, il explique toute cette dialectique d'acceptation des limitations des libertés publiques sous couvert de promesses de sécurité, tu vois. Il explique très très bien, alors que c'est voilà une vingtaine d'années plus tôt, voire 30 ans plus tôt, il a très bien envisagé comment ça se...
Ça vaudrait vraiment le coup qu'on fasse véritablement une émission autour de Michel Foucault et de ses écrits, parce qu'il y aurait matière et il a exploré différents domaines.
Il y a énormément de choses.
Et effectivement, les gender studies dont on a parlé tout le mois dernier, je pense que ça a pensé à beaucoup
Ça découle de ce qui a été évoqué là dans le sujet, c'est-à-dire qu'il remet en question la totalité des cadres sociaux qui nous entourent. En tant que construction, de la même façon dont on a parlé du genre, l'aspect policé de la binarité qui semble naturel, remis dans sa perspective de construction.
On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Est-ce qu'on peut écouter au moins
le petit bonbon,
voilà, sa vraie voix, c'est ça ?
Ouais.
Le savoir est tout de même profondément lié au plaisir. Enfin, qu'il y a certainement une façon d'érotiser le savoir, de rendre le savoir hautement agréable, et ça, que l'enseignement ne soit pas capable même de révéler cela, que l'enseignement ait presque pour fonction de montrer combien le savoir est déplaisant, triste, gris, peu érotique, moi je trouve que c'est un tour de force. Mais ce tour de force, il a certainement sa raison d'être. Il faudrait savoir pourquoi est-ce que notre société a tellement d'intérêt à montrer que le savoir est triste. Peut-être précisément à cause du nombre de gens qui sont exclus de ce savoir. Imaginez que les gens aient une frénésie de savoir comme ils ont une frénésie de faire l'amour. Eh bien, vous imaginez le nombre de gens qui se bousculeraient à la porte des écoles ? Ben, ça serait le désastre social total. Total. Il faut bien, si l'on veut restreindre au maximum le nombre de gens qui ont accès au savoir, le présenter sous cette forme parfaitement rébarbative et ne contraindre les gens au savoir que par des gratifications annexes sociales qui sont précisément la concurrence ou les hauts salaires en fin de course, etc. Mais je crois qu'il y a un plaisir intrinsèque au savoir, une libido si indie, comme disent les gens savants.
SLP, ça calme. It's cold in here, and Papa don't know what to do. Yeah, I know the cold's gonna do me no harm. But what am I supposed to do whacking around in these wet shoes, man? Snowing in my Converse kicks. Yeah, lady sliding through the splitty split. On est pris par le temps, donc on chante le morceau. C'était Bosco Del Rey, Ne m'en demandez pas plus.
On n'a pas le temps.
On n'a pas le temps. Allez. Mais c'est pas mal quand même, hein. C'est un peu rockabilly.
Don Haps.
Oui, c'est ça, ça c'est le titre. Michel Foucault, ouais, c'était énorme le son qu'on a entendu juste avant la pause musicale. La frénésie du savoir. Hein.
Savoir érotique, c'est
ouais,
rigolo.
C'était trop bien.
Foucault, il faut absolument qu'on en reparle.
Allez, chiche.
Dans l'année, on prend rendez-vous.
Allez.
Pour entrer un peu plus dans le vif du sujet et revenir sur cette figure majeure de la pensée de la fin du XXe siècle. T'es d'accord, Ariane ?
Oui.
Alors, autre icône, qui écrit plutôt et qui parle beaucoup dans des joutes oratoires, notamment parce qu'il était critique cinéma, au Masque et la Plume, c'est Jean-Louis Borry.
Il était pris Goncourt aussi, il a eu pris Goncourt en 1945.
Ouais.
En regardant Bleu, Blanc, Rose, moi, le documentaire dont on a déjà parlé de Yves Jolland, je me suis aperçu que c'était quelqu'un qui avait été important à une époque parce que c'était le seul homo à être hyper médiatisé, c'est-à-dire on l'invitait partout,
c'était
on parlait
beaucoup.
C'était le
personnage public. Ouais.
Assez provocateur. Hein.
Assez franc du collier dans son parler.
Oui. Tout le contraire de Jacques Chazot.
et en fait, il était important pour certains homos parce que justement, c'était le seul qui pouvait
voir. C'était un support de représentation.
Ouais, exactement. Pas forcément une identification, mais voilà, un support de représentation. Donc voilà, c'était quelqu'un qui me semblait important de mentionner et qu'on va peut-être écouter.
Oui, pour la fin de cette émission.
Allez, écoutons-le alors.
C'est Jean-Louis Borry, un samedi soir vers 22h, en direct et sans carré blanc, chez Bouvard.
Avouez, Jean-Louis Borry, que nous vivons dans un monde étrange.
Oui. Oui.
Passionnant, mais étrange.
Bizarre. Oui. Entre le fantastique et l'étrange.
S'il n'était pas en perpétuelle évolution, vous n'auriez peut-être pas écrit ma moitié d'orange.
C'est-à-dire que si, je serais certainement arrivé un jour ou l'autre à l'écrire. Parce qu'on arrive toujours à un moment dans la vie où on en a marre de mentir, à soi d'abord, puis aux autres. Et où on veut justement vivre selon, en accord avec sa nature profonde, et ne pas en avoir ni honte, ni avoir le goût de tricher. C'est-à-dire, je m'explique, eh bien je me suis aperçu très jeune que je suis comme tout le monde, c'est que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour vivre.
Oui, mais l'autre s'écrit au masculin.
Un autre que moi, mais c'est aussi, ça peut être aussi un autre comme moi. Alors évidemment, cela... Après, étant donné notre société, cela crée des problèmes.
Vous dites, je m'appelle à la fois Jean-Louis et Denise.
Alors
Jean-Louis.
Ça dépend des fois, ça dépend des jours.
Pour ce soir, par exemple.
Alors pour ce soir, je suis très très Jean-Louis, oui. Vous comprenez. Mais il y a des
vous
fois...
Vous avez laissé Denise à la maison.
Non, mais je m'entends très bien avec cette personne.
Oui.
C'est que vous comprenez, c'est ça qui est terriblement difficile, c'est qu'il faut accepter sa nature telle que l'on est.
SLP, l'émission qui vous trouve le cucu.
Alors ça, c'était une intervention qui se voulait pédagogique.
Je sais pas.
T'as dit pédagogique ?
Pédalgogique.
Ah, d'accord.
Ça date de 76 quand même.
Ouais.
Donc c'était avant la dépénalisation.
Donc il bravait quand même.
Il bravait la loi et puis surtout il bravait les on-dit de la société. Mais dans un autre extrait, il dit qu'en fait, il y a une position sociale qui fait que lui, il est en capacité de dire ce genre de choses-là parce qu'en fait, il craint rien socialement.
Oui.
Voilà.
Ce qui est pas le cas.
Il est protégé par sa notoriété.
Voilà. Mmh. Et il dit voilà et cette voix. Enfin, je peux profiter de ça pour parler aux médias parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Il parle des provinces, des gens voilà, dans les provinces reculées de France et qui ne peuvent pas le faire. Donc je parle aussi pour eux pour que voilà, ça puisse leur donner du courage, des choses comme ça. Enfin voilà quoi.
Voilà, donc on
tous
a
les
parlé
personnages
de...
publics ne font pas cet effort-là. Quoi.
Non, ça non, c'est sûr. Clair. Bah, à l'époque, c'était le seul. Hein.
Ben oui.
Non, mais même aujourd'hui où on n'en est plus au même point législativement, voilà.
Donc on a parlé d'Angela Davis, de Michel Foucault et de Jean-Louis Borry. Et c'est pareil, là, il y en a plein qu'on a oublié, mais on y reviendra.
Ben ouais, vous déjà, on n'a pas beaucoup de temps.
Ben, je sais pas, moi, Angela Davis, c'est vraiment une figure qui me marque énormément et qui écrase peut-être les autres. Après, il y a des gens dont on a parlé dans d'autres espaces. Enfin, moi, j'ai évoqué le nom de Béatrice Preciado ce mois-ci, déjà, ça s'est fait. Et voilà, il y a plein de gens.
Bon, la semaine prochaine, c'est une émission de Noël, on se la joue décontrastée.
Décontrastée, si, presque pas ratée.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.